dans les cieux. Alléluia. Une voile, ça sert à quoi? Ça sert à faire avancer le bateau. Hein. Le vent souffle, la voile se gonfle et le navire avance. Enfin, maintenant, c'est des bateaux à moteur, hein, mais autrefois, c'était ainsi. Et c'est vrai que dans la vie, eh bien, on peut dire que la vie, c'est un grand voyage et il y a des vents parfois contraires. Mais ce qu'il faut, c'est se placer dans le bon vent, le vent de l'esprit, hein, pour que le Seigneur fasse avancer notre existence dans la bonne direction. Alléluia. Voilà, on va ouvrir la parole de Dieu cet après-midi et je vous invite à faire une lecture qui se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 14 et à partir du verset 15. Voilà, l'évangile de Luc, chapitre 14, et le verset 15. Luc, chapitre 14, verset 15. Si on peut avoir le texte à l'écran, pour ceux qui n'ont pas la Bible sous les yeux. Merci. Ça va venir. Incessamment sous peu. La technique, c'est bien quand ça marche, hein? Voilà. Formidable. Merci. Nous lisons. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus : Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Et Jésus lui répondit : Un homme donna un grand repas et il invita beaucoup de gens. À l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux conviés : Venez, car tout est déjà prêt. Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit : J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit : J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit : Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors, le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur : Va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit : Maître, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur : Va dans les chemins et le long des haies, et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Amen. Voilà, hein, cet homme, au cours du repas auquel Jésus participait, a fait cette remarque, et je pense qu'il pensait que cette remarque était pertinente. Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Mais la façon dont cet homme s'exprime, ben, il a l'air de dire que c'est un petit peu le fait du hasard, ça. Hein. Comme s'il disait, mais celui qui ira dans le ciel, celui qui ira au paradis, il aura vraiment de la chance. Et Jésus, en racontant cette histoire, eh bien, a voulu lui montrer, n'est-ce pas, que le privilège d'aller un jour dans le ciel, pour ceux qui iront, tout au moins, n'était pas le résultat du hasard, de la chance, ni même uniquement du bon vouloir de Dieu, mais dépendait de la réponse que chacun de nous est appelé à faire à l'invitation que Dieu nous adresse. Parce que Dieu nous invite. Amen. C'est formidable ça. Que Dieu nous invite. Que Dieu nous honore en nous invitant, et le texte dit que, voilà, un homme donna un grand souper, il invita beaucoup de gens. J'ai une bonne nouvelle cet après-midi, vous êtes tous invités. Vous êtes tous invités. Et l'invitation a été formulée de la façon suivante: venez, car tout est déjà prêt. Vous voyez, il y a là un verbe qui est particulièrement important, c'est le verbe venir. Finalement, c'est un verbe qui peut résumer le message de l'évangile. Souvent, ce verbe est employé. Par exemple, Jésus dira dans une certaine circonstance, « Venez à moi, vous tous !» Non pas quelques-uns, non pas des gens triés sur le volet, non pas des gens choisis, prédéterminés à l'avance, mais « Venez à moi, vous tous !» qui êtes fatigué, qui êtes chargé, et vous trouverez du repos. Et c'est vrai que dans la vie, eh bien, il y a beaucoup de choses qui nous chargent, qui nous pèsent, qui nous fatiguent, pas seulement physiquement, mais souvent moralement. Eh bien, le Seigneur nous dit, voilà, venez à moi, et j'apporterai à votre vie le soulagement, l'apaisement, le repos intérieur dont vous avez besoin. Dans une autre circonstance, Jésus a dit, celui qui a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. Hein, nous avons tous soif de quelque chose. C'est du bonheur. C'est pas vrai? Il n'y a personne ici qui rêve d'avoir une vie la plus ratée possible. Non, sûrement pas. Tous, chacun notre manière, quel que soit notre âge, notre condition, notre milieu social, nous aspirons, et c'est normal, c'est légitime, à être heureux. Eh bien, le Seigneur nous dit, voilà, venez à moi, vous tous. Hein, venez à moi, celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et puis, il nous dit ailleurs encore, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. On pourrait se sentir indigne. Et c'est vrai que nous le sommes par rapport à la sainteté, par rapport à la beauté morale, à la perfection du Seigneur Jésus. Mais il nous donne cette assurance. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Même si nous sommes misérables, même si nous avons vécu d'une manière totalement contraire au principe divin, lorsque nous venons, eh bien, il nous accueille. Il nous reçoit. Et notez ceci, c'est que Jésus a dit, venez à moi. Celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. C'est à Jésus qu'il faut venir. Parce qu'il est la source du salut. Il est l'auteur du salut. Il est celui dont nous avons impérativement besoin. Vous savez, si nous venons vers les hommes, nous risquons fort d'être bien souvent déçus. Mais le Seigneur ne nous décevra pas. Je ne peux pas me sauver moi-même, voyez, puisqu'il est question du ciel. Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume des cieux, dans le royaume de Dieu. Je ne peux pas me sauver moi-même. Je ne peux pas, selon l'expression que certains entendent, non, gagner le ciel par mes mérites. Le ciel n'est pas à vendre. Gloire à Dieu. Le ciel n'est pas à vendre. C'est un cadeau que Dieu veut nous offrir parce qu'en fait, Jésus l'a gagné pour nous. Jésus l'a gagné pour nous, l'a mérité pour nous, c'est lui le sauveur. L'invitation, je le répète, a été formulée de la manière suivante, venez car tout est déjà prêt. Tout est déjà prêt. Cette parole fait écho à une autre parole que Jésus a prononcée lorsque il est mort sur la croix. Vous vous souvenez? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, tout est accompli. Voilà, tout est accompli. Ce qu'il y avait à faire, lui seul a pu le faire, a pu l'accomplir. Se chargeant de nos péchés, il est mort sur la croix pour que par son sacrifice, le ciel devienne accessible à chacun d'entre nous. Voilà, tout est accompli. Le pire des pécheurs, le plus grand coupable, l'homme, la femme qui a vécu totalement à l'inverse jusque-là des enseignements de la parole de Dieu, des commandements de Dieu, eh bien, il peut être sauvé. Il peut avoir l'assurance d'aller un jour dans le ciel parce que Jésus a tout accompli pour qu'il en soit ainsi, n'est-ce pas, en donnant sa vie sur la croix. Hélas, dans le texte qui nous occupe, vous avez remarqué que parmi les invités, beaucoup ont décliné l'invitation. Beaucoup ont décliné l'invitation. Et lorsque Dieu invite les hommes à être sauvés, lorsque l'évangile retentit, comme c'est le cas aujourd'hui, et dans bien des lieux, dans bien des endroits sur cette terre, beaucoup déclinent l'invitation du Seigneur, estimant qu'ils n'ont pas besoin de lui. Et généralement, les hommes, les êtres humains, décline l'invitation que Dieu leur adresse pour trois raisons, enfin tout pour trois prétextes majeurs. D'abord, regardez, il y en a un qui a dit, j'ai acheté un champ, mais ça ne tenait pas debout, son excuse. Parce que quand on achète une propriété, un champ, une maison, qu'est-ce qu'on fait d'abord ? On va voir. Si c'est une bonne ou une mauvaise affaire. Si, on peut être satisfait de l'acquisition que l'on fait ou pas. Voilà. Hein ? Il représente cet homme, celui qui est accaparé par les possessions matérielles. Vous savez, particulièrement dans notre société occidentale, on veut nous faire croire que le bonheur dépend de l'abondance des biens matériels. Bien sûr, on dit, on chante comme des perroquets, l'argent ne fait pas le bonheur. Mais au niveau de la réalité, nous subissons un véritable matraquage par le marketing, par la publicité. Et vous voyez, tous ces messages, tous ces slogans qui nous sont envoyés par les médias, etc., par divers moyens, veulent nous faire croire que c'est là que nous pourrions trouver notre satisfaction dans l'abondance des biens matériels. Plus j'en ai, et plus je serai heureux. Plus je posséderai de ceci, de cela, et du reste, et de smartphones, et de téléplasma, et je ne sais plus quoi encore, et plus je serai satisfait, plus ma vie sera épanouie. L'Écriture, avec beaucoup de sagesse et de pertinence, nous met en garde contre cet état d'esprit. L'Écriture dit que nous n'avons rien à porter dans ce monde, et nous ne pouvons rien à emporter. Nous n'y avons rien à porter lorsque nous sommes venus au monde, et nous n'emporterons rien non plus. Job, cet homme célèbre par les épreuves qu'il a traversées, dira « Je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre. » Voilà la réalité, voyez. Entre ces extrémités de vie, la naissance, la mort, l'arrivée, le départ, mes amis, les biens matériels sont fugaces, sont illusoires. Et si vous trouvez là votre compte, si vous pensez trouver là votre compte, vous ne serez pas satisfait. Jésus a très bien résumer cette vérité en disant « Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier ou tout le monde s'il perdait son âme ?» Imaginez un petit peu, si vous étiez le propriétaire de la terre entière, ça ne vous arrivera pas, rêvez pas, hein. Si tout l'or, tout l'argent de cette terre, tout ce qui se trouve dans les banques à Genève ou à Vieux était votre, hein. Malgré tout, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme ? Est-ce que votre âme, c'est ce que vous avez de plus précieux ? Votre âme a une valeur, une importance éternelle. Voyez, tout le reste, l'argent vous filera entre les doigts et vous serez obligé de tout abandonner, de tout laisser à vos héritiers, directs ou indirects. Mais votre âme a une valeur éternelle. Et il ne faut donc pas accorder à ces biens matériels une importance excessive. Il ne faut pas perdre le vue essentiel. Qu'est-ce que c'est que l'essentiel ? L'essentiel se résume à une question qu'il nous faut résoudre impérativement. La question est la suivante. Posez-vous-la. Où passerai-je l'éternité ? Parce que l'éternité vous attend. Et l'éternité, par définition, n'a pas de fin. N'a pas de fin, n'est-ce pas ? Pouvoir répondre valablement à cette question, c'est l'objectif essentiel que nous devons poursuivre. Béni soit Dieu pour tous ceux qui, un jour, là, il y en a, un seul lieu, ont pu répondre à cette question. En entendant l'Évangile, ils ont compris qu'il leur manquait l'essentiel, finalement. Ils n'étaient pas sauvés, ils n'étaient pas en règle, en harmonie avec la volonté de Dieu. Et s'ils continuaient dans cette voie, ils seraient irrémédiablement perdus. Ils passeraient leur éternité dans les tourments infernaux. Alors, sans plus tarder, ils se sont tournés vers le Seigneur, se repentant de leurs péchés, mettant leur foi en Jésus. Et maintenant, ils ont une merveilleuse assurance. Gloire à Dieu, une sécurité intérieure. N'est-ce pas ? Savoir que leur nom est inscrit dans le ciel, dans les registres célestes, et qu'un jour, quand il leur faudra quitter cette terre, ils seront accueillis là-haut. Avez-vous une telle certitude ? Je ne parle pas d'un espoir, mais d'une certitude. Car Jésus nous offre une certitude. Voyez ? L'apôtre Jean écrira dans son épître, « Je vous écris, petits enfants, c'est un terme d'affection, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Ce n'est pas un espoir vague, imprécis, flou peut-être, j'espère. C'est une certitude, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Ça, vous voyez, c'est dans le cœur de plusieurs cet après-midi. Et ça peut venir dans votre cœur. Alléluia! Vous pouvez sortir de ce lieu tout à l'heure en ayant cette certitude, cette conviction en vous qui, sans prétention, vous permettra d'affirmer « Je sais que je suis sauvé. Je sais que mes péchés sont pardonnés. Je sais que je suis en paix avec Dieu. Je sais que Christ m'a préparé une place là-haut. » Vous savez, quand on a ça, le bien matériel, eh bien, c'est vrai, il faut ce qu'il faut. N'est-ce pas ? Le Seigneur n'a pas dit que nous allions vivre de l'air du temps. Mais sans plus, sans plus. Et puis, il y a un autre, il dit, « Moi, j'ai acheté 5 paires de bœufs. Et je vais les essayer. » Alors aujourd'hui, peut-être ce ne serait pas 5 paires de bœufs, hein, ce serait un tracteur si c'était un agriculteur ou une nouvelle voiture. Voilà. Et je vais les essayer. J'ai fort à faire. Donc je ne peux pas répondre à l'invitation parce que je n'ai pas le temps. Après les possessions, il y a les occupations. Dieu ne fait pas l'éloge de la paresse. Bien au contraire. Mais il y a un temps pour tout. Prenez le temps de vous arrêter, même si vous êtes très actif, même si vous êtes dévoré par votre activité professionnelle, et on peut le concevoir, il faut de temps en temps s'arrêter et dire, mais quel est le but de tout ça? Vous savez, parfois Dieu permet que des événements fâcheux se produisent justement pour nous arrêter dans notre course folle. Écoutez ce que dit la Bible. Il dit, au jour du bonheur, sois heureux. Mais elle dit aussi, au jour du malheur, réfléchis. Et c'est terrible que nous, les hommes, il faut parfois un coup dur, c'est pas vrai, pour que nous commencions à réfléchir intelligemment. Ah, tant que tout va bien, on n'a pas besoin de Dieu. On a autre chose à faire, autre préoccupation, autre activité. Tenez, il y a un exemple dans la Bible. Exemple de cet homme qui était geôlier, gardien de prison, hein, dans la ville de Philippe, en Macédoine. Généralement, cet emploi était réservé aux vétérans des armées romaines. Vous voyez, ceux qui avaient bien servi l'Empire romain, eh bien, on leur offrait cet emploi réservé, voilà, pour qu'ils finissent paisiblement leurs vieux jours avant de prendre la retraite. Donc cet homme, vous voyez, il n'avait pas de soucis à se faire. Il avait une famille, des maris, apparemment, pas de problème de santé, pas de problème familial. Un emploi stable, parce que des prisonniers, il y en aura toujours. Hein. Et puis, ce soir-là, alors qu'il y avait là au fond de la prison 2 apôtres, parce que c'était un temps de persécution, un tremblement de terre, l'écriture, le texte auquel je fais référence, dit, les fondements de la prison furent ébranlés. Vous savez, des fois dans nos vies, c'est les fondements qui sont ébranlés. Ce sur quoi nous avons bâti notre existence qui commence à vaciller. Les portes se sont ouvertes avec fracas et pensant que les prisonniers avaient pris la poudre d'escampette, comme on dit, le geôlier a sorti son épée, il a laissé l'enfoncer dans le corps. Vous voyez, Paul est intervenu, l'apôtre, en disant, ne te fais pas de mal, on est tous ici, personne n'est parti. Et cet homme s'est posé, c'est bizarre, là, une question qu'il ne s'était jamais posée, dites. Cette question a jailli spontanément dans son cœur. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé? Et devant son épée nue, devant la mort vers laquelle il s'apprêtait à se précipiter, eh bien, l'angoisse l'a saisi, il a réalisé qu'il n'était pas prêt à partir dans l'éternité et que s'il partait ainsi, il était perdu, irrémédiablement perdu. Alors, cette question a jailli. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Vous voyez, il a fallu qu'il soit là. Il a fallu qu'il soit arrêté dans sa petite vie bien tranquille, dans ses activités multiples, pour qu'il se pose la question primordiale. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé? Et la réponse est venue, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Ce qu'il fit, gloire à Dieu, c'est ce que vous devez faire cet après-midi. Si vous voulez être sauvé, mettez votre foi en Christ. Qu'est-ce que c'est que la foi? La foi, ce n'est pas simplement une émotion religieuse, ce n'est pas simplement un petit sentiment là, qui nous émoustille au fond de notre cœur. Non, la foi est faite d'engagement et de persévérance. D'engagement et de persévérance. La foi, c'est de choisir Jésus comme sauveur et Seigneur de notre vie. C'est ce que disait Paul à ce geôlier. Crois au Seigneur Jésus. Ça veut dire, fais de Jésus le Seigneur, le maître de ta vie. Et tu seras sauvé. Hein? Et c'est un bon maître. Il nous conduit dans la bonne direction. Gloire à Dieu. Et il nous faut le choisir. Alors voyez, voilà. L'un, c'était les possessions. L'autre, les occupations. Et l'autre encore. Ah, disait lui le troisième. Je viens de me marier. C'est pourquoi je ne puis aller. Lui, ce qui a fait qu'il a prétendu ne pas pouvoir répondre à l'invitation, ce sont les relations. Les relations. T'es marié. C'est pas un péché, hein? Non. Un philosophe a dit, l'enfer, c'est les autres. Et il ne faudrait pas que les autres, justement, en tout cas, l'opinion, l'influence des autres, nous y conduisent en enfer. Nous y conduisent en enfer. C'est légitime d'aimer notre famille, nos amis, nos parents. Mais Jésus a dit, celui qui aime son père, sa mère, sa femme ou son mari, ses enfants, plus que moi, n'est pas digne de moi. Vous voyez, le Seigneur a des exigences quand même. La vie chrétienne, c'est exigeant. Ce n'est pas contraignant, c'est exigeant. Le Seigneur veut tout de nous-mêmes. Voilà. Que tu lui livres ton être tout entier. Voilà, sans restriction. Que tu lui fasses confiance. Fasse confiance, parce qu'il est absolument digne de confiance. Vous ne croyez pas qu'on peut faire confiance à quelqu'un qui, par amour pour nous, a donné sa vie sur la croix. Il n'y a pas de plus grand amour que ça. Il n'y a pas de plus belle preuve d'amour que de donner sa vie pour ce que l'on aime. Jésus nous a aimés à ce point. Alors, quelqu'un qui nous a aimés de cette façon, qui nous a aimés, j'ose le dire, à la folie, au point de donner, de mourir pour nous, on peut lui faire confiance en retour au point de lui donner toute notre vie. Seigneur, toute notre vie. Voilà, n'ayez pas peur de vous livrer entièrement, Seigneur. Il y a des gens, ils sont toujours sur la reculade, hein, ils hésitent. Oh là, m'engager avec le Seigneur, ça n'a pas l'air mal, mais où est-ce que ça va me conduire? Est-ce qu'il n'y aura pas des exigences trop sévères? Est-ce que je vais être sûr de tenir le coup? Est-ce que je ne vais pas revenir en arrière? Est-ce que les commandements de Dieu ne seront pas trop pénibles pour que je les mette en pratique? Non! La Bible dit que les commandements de Dieu ne sont pas pénibles parce que la victoire qui nous permet de triompher de nous-mêmes et du monde aussi, c'est notre foi. Quand nous nous engageons avec le Seigneur, quelque part le Seigneur s'engage avec nous. Tu t'engages à devenir mon disciple, dit Jésus, et moi je m'engage à devenir ton maître et ton sauveur. En quelque sorte, il nous prend par la main. Il y a un homme de la Bible qui a dit ça. Hein? Tu m'as saisi la main droite. Chez les Hébreux, la main droite, c'est la main la plus forte. Et c'est la main de la décision. Voyez, tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil. Là, sur la terre, il nous conduit. Et tu me recevras dans la gloire. Vous savez que c'est bon d'être conduit par le conseil de Dieu? Oui. Quand j'ai suivi le conseil de Dieu, je m'en suis trouvé fort bien. Quand je n'ai voulu l'en faire, ça m'est arrivé, hélas, qu'à ma tête. Quand j'ai fermé mon oreille à la voix du Seigneur, n'écoutant que mon opinion, je m'en suis mordu les doigts, et même davantage. Voyez, tu me conduiras par ton conseil, et puis tu me recevras dans la gloire. Voilà les étapes que le Seigneur se propose de faire avec nous. Saisir par la main, conduire par son conseil, et nous recevoir un jour. Alléluia! Voulez-vous accepter aujourd'hui que Jésus vous prenne par la main pour qu'ensuite, durant tout votre parcours terrestre, il vous conduise dans les directions, dans les décisions que vous aurez à prendre et que finalement, un jour, il vous reçoive. Alléluia! Dans la gloire du ciel, dans la gloire du ciel. Et non, il ne faut pas que les relations, amis, famille, nous retiennent loin du Seigneur. Il y a ce verset de la Bible qui dit que chacun de nous, écoutez ça, rendra compte à Dieu pour lui-même. Ce n'est pas le petit copain qui ce jour-là viendra me défendre. Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Pour lui-même. Un autre texte dit que chacun sera jugé selon ses œuvres. Vous voyez, nous avons une responsabilité personnelle. Aujourd'hui, dans notre société, on veut nous faire croire que c'est toujours la faute des autres. Vous avez remarqué ça? Hein? S'il est devenu un gangster, un voyou, ben c'est que, vous comprenez, il a eu une enfance difficile. Oui, d'accord, il a peut-être eu une enfance difficile. Ça explique, mais ça n'excuse pas. Chacun, nous avons une responsabilité personnelle. C'est vrai devant la loi des hommes, c'est encore plus vrai devant la loi de Dieu. Alors, voyez, cet appel, voilà, a été décliné. J'ai acheté un champ, j'ai acheté 5 paires de bœufs. Je viens de me marier, et le maître, le serviteur est revenu tout dépité en me disant, personne ne voulait venir. Alors le maître de la maison dit à son serviteur, va promptement dans les places, les rues de la ville, et amène ici qui? Les gens bien, les gens beaux, non. Les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Sur le plan spirituel, moral, c'est ce que nous sommes. Eh oui. Qu'est-ce que c'est un estropié? C'est quelqu'un qui a un membre qui a subi une déformation, difformité, n'est-ce pas? Membre tordu. Et vous savez que nous avons quelque chose qui est tordu en nous? C'est notre cœur. Il y a un verset du prophète Jérémie qui dit « Le cœur, c'est-à-dire le centre de notre être moral et spirituel, il est tortueux par-dessus tout et il est méchant. » Voilà le verdict de Dieu. Je ne veux pas vous vexer, vous offenser, mais moralement, c'est ce que nous sommes. Vous savez quoi? Le Seigneur se propose de nous détordre. Alléluia. De nous rendre droit. Amen. Hein? Quand on vient au Seigneur, il y a des fois des trucs tordus dans nos vies. Des façons de se comporter, d'agir, de penser, de parler qui sont pas clair, pas net, pas droit. Mais quand le Seigneur nous prend en main, quoi, il nous détord. Il nous rend droit. Alléluia. Des fois, ça prend du temps, mais il le fait. N'est-ce pas? Et puis, voilà, les estropiés, les aveugles. Oui, les aveugles. L'Écriture dit que le diable a aveuglé l'intelligence des hommes pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'Évangile. Moi, je ne comprends pas pourquoi les gens ne veulent pas se convertir. Des fois, quand je prêche l'Évangile, je me disais, si j'étais à la place de ceux qui sont assis, je me convertirais là. Parce que c'est formidable, l'Évangile. Il y a un aveuglement spirituel. Le diable dit, allez, laisse tomber, n'écoute pas ce bonhomme. Il te raconte des salades. Allez, vis ta vie. Maintenant, rien à faire de l'Évangile. Profite de l'existence. Mais ça, c'est le diable qui aveugle notre intelligence. C'est le diable. Lorsque je me suis converti, que j'avais 15 ans, waouh! Mes copains ont rigolé un bon coup, se sont moqués de moi. Hein? Mais le temps a passé, et quand je regarde, ben finalement, par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a préservé de bien des choses, vous savez. Et certains ont fini tristement. Et je n'étais pas plus malin qu'un autre, mais si j'ai pu m'en tirer, c'est parce que Dieu m'a fait grâce. Je bénis le Seigneur qu'il m'ait ouvert les yeux, qu'il s'est révélé à ce jeune ado que j'étais d'une 15 d'années, comme s'il me disait, mon gars, t'as vraiment besoin de moi. Et si tu veux que quelque part ta vie soit réussie, il faut que tu te tournes de mon côté. J'ai eu la simplicité de dire, ok Seigneur, j'ai besoin de toi. Ça s'est fait sans tambour ni trompette. Vous savez, il y a des gens, leur conversion, elle est entre guillemets spectaculaire, il y a des larmes, il y a des émotions intenses, il y a, voilà. Moi, ça a été tout simple. Mais j'ai fait ce choix, et je ne le regrette pas. Et s'il faut le faire refaire aujourd'hui, je resigne, parce que ce n'est pas toujours le plus facile, mais c'est le meilleur d'être avec le Seigneur. Oui, c'est le meilleur. Alors, laissez le Seigneur vous faire voir sa lumière. Et puis, il y a les estropiés, il y a les aveugles, il y a qui encore, hein? Il y a les pauvres. La plus terrible des pauvretés, c'est celle du cœur. Jésus a dit, là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Vous savez que le Seigneur nous enrichit. Quand j'étais jeune, dans les réunions de jeunesse, Nous chantions un cantique qui disait « Je suis plus riche qu'un millionnaire. Dieu prend soin de moi. » Alléluia. Ça n'a pas de prix, ça. C'est formidable de voir le Seigneur nous conduire dans les choses de la vie courante, vous voyez, dans les études, dans le mariage. Hein? Quand on n'a pas le Seigneur dans sa vie, se marier, mais c'est une loterie, mes amis. On peut tirer le bon numéro ou alors le mauvais. Mais quand Dieu est dans notre vie, qu'on suit son conseil, il nous donne de tirer à coup sûr le bon numéro, si je puis dire. Vous voyez ? Dans la vie professionnelle, dans l'éducation des enfants, dans tous les domaines. Dans tous les domaines, c'est une richesse d'avoir le Seigneur dans notre cœur. Dans notre cœur. L'Écriture dit que, étant riche, lui, il s'est fait pauvre pour nous, afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis. C'est vrai, Jésus s'est appauvri volontairement. Il a quitté d'abord la gloire du ciel. Il est venu sur la terre vivre une vie de simple homme. Quand il meurt sur la croix, il n'a plus rien. Il a tout donné de sa vie, de son sang, afin que par cet appauvrissement volontaire de sa part, notre vie à nous, elle soit enrichie. Pas pécuniairement, vous l'avez compris, mais moralement et spirituellement. Les pauvres, les aveugles, les boiteux, hein? Et quand on vient au Seigneur, il y a tant de choses qui clochent dans notre vie, qui sont en opposition, en contradiction avec la volonté de Dieu. Voilà. Lorsque je fais ce qui est contraire à sa volonté, ses commandements, je pêche. La Bible dit que le péché, c'est la transgression, c'est-à-dire la désobéissance à la loi divine. Et oui, alors ça cloche. Il y a des tas de choses qui clochent. Mais le Seigneur nous redresse. Je l'ai dit tout à l'heure. Il nous apprend à marcher dans la bonne direction. Et à marcher droit. Gloire à Dieu. Et on s'en trouve bien. Vous voyez ? On s'en trouve bien. Parce que le Seigneur apporte sa bénédiction. Alors, voilà, on a amené les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux. Et le serviteur est revenu en disant... Ça y est, on a fait ce que tu nous as dit, il y a encore de la place. Ça, c'est super. Une bonne nouvelle, dans le ciel, il y a une place pour vous. Si vous voulez bien la recevoir, cette place. Jésus a dit, je vais vous préparer une place. Et quand je m'en serai allé, que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai vous chercher, je vous prendrai avec moi pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Mais le Seigneur ne va pas vous prendre par les cheveux ou par le collet en disant que ça te plaise ou non, t'iras. Non. Il vous propose de vous préparer une place. Il y a encore de la place. Il y a encore de la place. Des fois, on vient à un spectacle, un match, et ça se joue à guichet fermé. Il n'y a plus de place. Ah, mince alors. Il n'y a plus de place. J'aurais voulu entrer. Je ne peux pas. Il n'y a plus de place. Mais dans le ciel, il y a encore de la place. Alors ne passez pas à côté. Mais laissez le Seigneur vous préparer cette place. Et le maître a dit, ben, puisqu'il y a encore de la place, vas-y dans les chemins, le long des, tout ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. Il ne s'agit pas de contraindre par la violence. Mais il s'agit de contraindre par la persuasion. Le Seigneur nous contraint en nous révélant son amour. Quand on a compris son amour, on ne peut dire, Seigneur, je ne peux pas résister plus longtemps. Tu m'as tellement aimé. Je ne peux pas refuser ce que tu me proposes. Alors je me donne à toi, voyez, afin que ma maison soit remplie. Parce que ce que Dieu veut, c'est que tout le monde soit sauvé. Tout le monde ne sera pas. Et c'est pourtant son intention, son désir suprême. Son désir, c'est que vous y soyez au ciel un jour. Et pour cela, ne déclinez pas l'invitation, ne faites pas des ronds de jambes en disant « Oui, mais je ne peux pas parce que ceci, parce que cela, ou on verra plus tard. » Mais dites « Oui !» Un oui franc et massif. Et dès ce jour, le Seigneur vous sauvera, vous fera grâce, et votre place sera prête. Amen. On prie le Seigneur. notre Dieu, notre Père. Nous te louons.